Le dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui, c'est la septième et dernière fête du cycle annuel des fêtes de Dieu. La dernière étape du plan de Dieu que nous connaissons pour l'instant. C'est une prophétie qui va se réaliser immédiatement après le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous montre qu'après le millénium, Dieu va ramener, et ça c'est formidable, à la vie physique, comme vous et moi aujourd'hui, tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire depuis Adam et Ève et qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui n'ont jamais connu le vrai Dieu, qui n'ont pas eu de religion ou qui ont suivi les religions du monde qui sont innombrables à travers l'histoire. Dieu va ramener tous ces gens-là à la vie physique. Et Dieu va alors leur faire connaître la vérité, comme il vous fait connaître à vous aujourd'hui la vérité. Il va ouvrir leur esprit à comprendre, comme il a ouvert et qu'il continue d'ouvrir votre esprit à comprendre. Ce qu'il va faire, il va aussi mettre avec tous ces gens-là son esprit autour d'eux, pour qu'ils soient capables de comprendre graduellement son plan, ses lois, et les mettre en pratique, pour qu'ils puissent se repentir, ayant vu qu'ils ont transgressé toutes les lois de Dieu, comme on a appris, et qu'ils aient leur chance d'aller vers le baptême, ensuite de recevoir l'imposition des mains, de recevoir le Saint-Esprit, de voir leur nom inscrit dans le livre de vie. Comme nous, à notre époque, le même scénario. D'ailleurs, ça aurait été la même chose en ce qui concerne ceux du millénium. Les survivants de la grande détresse, qui seront encore des êtres humains physiques, charnels, vont à ce moment-là être appelés par Dieu, vont apprendre les lois, vont suivre le même cheminement vers le baptême et vers l'engendrement spirituel. Maintenant, je vais plus loin. Quand le dernier jour va se réaliser, ce sera la fin de l'histoire humaine actuelle. Tous les êtres humains se seront vus offrir le choix, la décision ou non d'aller vers le salut, d'aller vers l'immortalité, d'aller vers la vie éternelle en tant que membre de la famille de Dieu. Tous les êtres humains, à la fin du dernier grand jour, se seront vus offerts à notre époque, nous, ceux du millénium, et ceux du dernier grand jour, ça comprend tous les êtres humains, se seront vus offrir la possibilité de choisir de servir Dieu. Et le but de Dieu n'a jamais changé. On ne s'y reportera pas, mais vous pourrez noter 1 Timothée 2, verset 4. Ça, c'est le but de Dieu. 1 Timothée 2, verset 4. Et il n'a jamais changé. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils soient sauvés de la mort éternelle, qu'il ait la vie éternelle, c'est le contraire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et chacun en son temps, comme le plan de Dieu a été établi. Donc, dans 1000 et quelques années d'ici, pourquoi je dis 1000 et quelques années? Parce que c'est tout le temps du millénium, plus les quelques années qui nous séparent, nous, du retour de Christ. OK? Alors donc, dans 1000 quelques années, comme aujourd'hui, accomplissement du dernier grand jour, un événement fantastique va se produire par la puissance de Dieu. Les milliards d'êtres humains qui ont vécu dans l'histoire et qui n'ont jamais été appelés vont être ressuscités, ramenés à la vie physique pour connaître les lois de Dieu et avoir le temps de faire leur choix eux aussi. Comme nous, il nous a donné du temps actuellement pour vivre selon les lois de Dieu. Maintenant, je vais plus loin, vous allez voir, c'est fascinant. La journée d'aujourd'hui, elle est tellement encourageante. Ça veut dire quoi, cette journée-là? La réalisation du dernier grand jour, pour vous et pour moi. C'est tellement encourageant, tellement réjouissant. Ça veut dire que nous allons revoir en chair et en os tous nos chers disparus qui sont morts. Tous nos chers disparus qui sont morts. C'est comme aujourd'hui, au jugement du grand trône blanc, que nous allons les revoir. En réalité, face à face. Et nous aurons un rôle à jouer envers eux. On va retrouver nos amis. On a tous des amis qu'on a connus au cours de notre vie. On va retrouver nos enfants décédés. Certains d'entre nous ont des enfants qui sont morts. Je connais aujourd'hui une dame dans l'Église depuis très, très longtemps, une fidèle servante de Dieu, qui a vu sa petite bonne femme de 7-8 ans être tuée par une automobile en avant de la maison il y a plusieurs années. Et chaque année, quand la fête du dernier grand jour arrive, je sais ce qu'elle a dans le cœur et je sais ce qu'elle désire. Et elle sait que ce jour-là, quand ça va se réaliser, sa petite sera ramenée à la vie et elle va la retrouver. Donc, comme aujourd'hui, nous allons retrouver nos enfants décédés, soit par maladie, soit par accident, soit par fausse couche. Et mon épouse et moi, on en parlait ce matin. Nous, on va retrouver des enfants qu'on n'a pas eus réellement, mais qu'on a eus en même temps. C'est que mon épouse a fait 3 fausses couches. Alors, il y a 3 petits-enfants qui vont nous attendre lors du dernier grand jour et qu'on va éduquer, qu'on va servir, qu'on va aimer. Alors, il y a des choses formidables qui nous attendent de ce côté-là. On en parle, mon épouse et moi, et ça vient nous chercher. Je sais qu'il y en avait un parmi ceux-là, il était tout petit, c'était un petit garçon. Les 2 autres, on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles, ils n'étaient pas assez formés. Mais donc, il y en a 3 en attente de la résurrection. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que ma fille Annie, qui est ici, la femme de M. Marc Arsenault, elle aura un autre petit frère. Et elle aura possiblement 1 ou 2 sœurs. On ne sait pas encore leur sexe, mais on aura probablement 1 ou 2 sœurs qui vont être ajoutées à la famille. Alors, c'est comme aujourd'hui qu'ils vont revenir à la vie. Écoutez, la vie commence au moment de la conception. Dès que le sperme et l'ovule se rencontrent et qu'il y a fécondation, la vie commence là. Même si cet enfant potentiel meurt quelques secondes après, c'est un être vivant. La vie a commencé et cet être-là aura sa chance d'être ramené à la vie. Comment? Là, je ne peux pas vous dire. Le Tout-Puissant le sait. Mais si minuscule soit le petit être qui était là, il était un enfant et il est un enfant potentiel de Dieu et il sera ramené à la vie. Aujourd'hui, on va revoir nos grands-parents aussi. Certains d'entre nous, on en a connu 1 ou 2 ou plus, peut-être les 4 grands-parents, sinon pas du tout, mais nos grands-parents seront ramenés à la vie à ce moment-là aussi. Nos parents, pour ceux d'entre nous qui ont perdu leurs parents. Pour moi, quand je pense à la journée d'aujourd'hui, ça me rend ému parce que il y a, bien sûr, je vais retrouver plein de gens, mais il y a un être en particulier que j'ai hâte de serrer dans mes bras et de voir face à face, mon père. Certains ont eu la même sensation cette semaine. Et vous savez, mon père, aujourd'hui, cette année, aurait 121 ans. Parce qu'il est né à la fin des 1800. Il est né en 1897. Donc, il aurait 121 ans maintenant. Alors, vous imaginez, quand je vais le retrouver à ce moment-là, je vais pouvoir dire, « Père, vous avez 1121 ans plus quelques années. » Connaissant mon père, il va peut-être dire, « Yvon, penses-tu que le gouvernement va me rembourser ma pension de vieillesse? Pour toutes ces années-là, ce qui ferait une jolie somme. » Alors, j'imagine les retrouvailles avec mon père. Nous, on a grandi dans une société qui était différente d'aujourd'hui. On avait beaucoup de respect, beaucoup d'affection pour nos parents, mais on ne se le disait pas beaucoup à l'époque. Et moi, je me rappelle, ça a été jusqu'à temps que j'aille en âge assez avancé, avant que je puisse même caresser la tête de mon père. Je me rappelle, il était très, très vieux dans sa chaise berçante, puis à un moment donné, je me suis décidé, puis je lui parlais, puis je passais ma main dans sa tête. Ouais. Formidable. Des belles retrouvailles. Et vous savez, j'imagine plus que ça. Parce que j'ai nettement l'impression que c'est moi qui vais le ressusciter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Et Dieu peut permettre à ses fidèles serviteurs de ramener à la vie ses êtres chers. Dieu est un Dieu logique, puis c'est un Dieu de famille. Je vais vous donner des exemples que c'est possible que des serviteurs de Dieu ramènent à la vie des êtres humains décédés. Rappelez-vous Élie. Dans la Bible, vous pourrez aller voir dans 1 Roi 17. Élie a ramené à la vie le fils de la veuve de Sarepta, un serviteur de Dieu qui a ramené à la vie un enfant décédé. Vous avez la même chose avec l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, c'est marqué dans la Bible, je n'ai pas le passage, mais un soir, Paul a étiré un sermon plus long que d'habitude, plus long que long, et il y avait un jeune homme qui était assis en haut de la muraille, qui écoutait le sermon et qui s'est endormi, qui est tombé en bas, il est décédé. Qu'est-ce que Paul a fait? Il l'a ressuscité, il est descendu, il l'a ramené à la vie. Par la puissance de Dieu, pas la puissance de Paul, la puissance de Dieu. C'est ce qui me fait dire que ce n'est pas impossible que je puisse ressusciter mon père, ma mère, nos proches. Que Dieu permette qu'on puisse le faire pour nos proches qui sont disparus. Mais ça me dit en même temps que pour que je puisse goûter à cette bénédiction-là, il faut que je sois là. Il faut que j'aie persévéré jusqu'à la fin. Alors, vous allez comprendre pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Un jour qui fait rêver ». Un jour qui fait rêver. Après une longue attente de 1000 et quelques années, nous allons retrouver nos chers disparus. Maintenant, reportons-nous dans le futur, le jour de la réalisation du jour qu'on vit aujourd'hui. Et voyons ce qui s'est passé avant, ce qui se sera passé auparavant. De grands événements auront eu lieu auparavant. Des événements qui approchent pour nous, là où nous sommes dans le temps. Il y aura eu le retour du Christ, ce qu'on a fêté à la fête des trompettes. Il y aura eu Satan et ses démons liés pour 1000 ans, ce qu'on a célébré à la fête des expiations. Et il y aura eu le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre, qui va s'achever. À la fin de ce 1000 ans, selon la prophétie, Satan sera relâché, selon le plan de Dieu, pour un peu de temps. Et il va rapidement convaincre Gog et Magog et leurs nations satellites d'attaquer Jérusalem. Satan est puissant. Il a convaincu un tiers des anges d'aller attaquer le trône de Dieu et il a séduit toute l'humanité, comme c'est marqué dans la Bible. Allez à Apocalypse chapitre 20. On va voir l'événement ici dont je parle. Apocalypse chapitre 20, nous allons lire le verset 7. Après que le premier 1000 ans du règne du Christ sera terminé, Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et là, il précise qui sera à la tête de ces nations-là, Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre était comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Ils attaquèrent la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. On voit que cette grande bataille ici va arriver à la fin du premier millénaire du règne du Christ. Et ça montre la puissance de Satan, parce qu'il sera relâché seulement pour un peu de temps, et il va réussir à convaincre plusieurs nations sur la terre d'aller attaquer la ville sainte. là où nous serons et là où le Christ sera. C'est fort, hein? Ça nous montre à quel point l'adversaire est puissant et qu'on a besoin d'être proche de Dieu pour être capable d'affronter ses pièges et de passer à travers. S'il a été capable de faire tout ça, imaginez-vous, avec les petits êtres humains que nous sommes, il peut savoir sur quel bouton peser pour nous décourager, pour nous rendre amers, pour nous faire avoir la peau mince et être offensé de toutes sortes de choses. Il sait sur quel bouton peser. Il est puissant. Allez à Ézéchiel, chapitre 38, maintenant. Ézéchiel, chapitre 38. Ici, il est question d'un événement semblable à celui que je viens de vous décrire qui va arriver à la fin du millénium. Un événement semblable qui se sera produit longtemps avant, au début du millénium. On va le voir. Ézéchiel 38 décrit une grande attaque militaire qui aura lieu contre la ville paisible de Jérusalem un certain nombre d'années après le début du millénium. Attaque contre Jérusalem un certain nombre d'années après le début du millénium. Cette attaque sur Jérusalem par Gog et ses alliés pourrait bien sûr avoir une dualité de réalisation. Il y a un certain nombre de prophéties dans la Bible qui se réalisent deux fois. Et ça semble être l'une d'eux. Ézéchiel 38, on va lire le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Alors, Gog et Magog, ici, je vais préciser quelque chose qui va nous aider à comprendre davantage. Plusieurs commentateurs bibliques reconnaissent qu'il est ici question des peuples de la Russie et les Mongols, les peuples mongols, les peuples de la Mongolie. Et je me rappelle l'évangéliste de l'Église du Dieu vivant, M. John Ogwin, celui qui a écrit notre cours de Bible. M. John Ogwin explique qu'il s'agira d'un regroupement de divers peuples. Essentiellement, il s'agira à ce moment-là d'une alliance asiatique comprenant une bonne partie des peuples qui forment la Russie actuelle, en plus de l'Inde et de la Chine. Ça, c'est le groupe qui va attaquer Jérusalem à ce moment-là. Ézéchiel 38, on recommence au verset 2. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » Juste une petite précision. Méchec, au point de vue étymologie de mots, c'est un mot qui peut décrire Moscou, Méchec, la capitale de la Russie. Et c'est pour ça que c'est Gog et Magog et les peuples russes. Il y a plusieurs nationalités russes dans les pays de cette région-là. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à ta mâchoire. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. C'est pour ça qu'il disait qu'il y a plusieurs nations qui vont être avec lui. Tous portant le bouclier et le casque. Gomer, l'Indochine, et toutes ses troupes. La maison de Togarma, qui est la Mongolie, à l'extrémité du septentrion. Et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Alors Gog et Magog, ces nations-là, les nations russes, la Chine, vont être à la tête des nations pour attaquer Jérusalem à ce moment-là. Au début du millénium, et ça va se répéter à la fin du millénium. Et regardez maintenant le verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Ça, c'est après la grande détresse, quand Dieu ramènera de plusieurs peuples les captifs à Jérusalem. C'est ce qu'il décrit ici. Il dit, Jérusalem sera en paix. Les peuples israélites auront été ramenés dans leur terre originelle. Et là, après bien des jours, au début du millénium, donc, ces peuples-là vont attaquer Jérusalem. Et la même chose va se produire à la fin du millénium. Vous savez pourquoi? M. Armstrong l'a expliqué. Et je pense qu'on le comprend encore plus aujourd'hui. C'est qu'au début du millénium, ça ne se passera pas par magie. La nature humaine va être encore là. Satan ne sera plus là. Mais les gens auront encore à lutter contre leur nature humaine qu'ils ont développée au cours de leur vie. Il y aura encore de la cupidité, de l'envie, de la méchanceté et du désir de combattre. Comme c'est là, ce ne sera pas inspiré par Satan, mais ce sera encore dans le cœur des êtres humains. Et c'est pour ça que ces choses-là vont arriver. Et c'est pour ça que le monde de demain, le millénium, n'arrivera pas comme par magie. On aura du travail à faire et ça va se faire graduellement, pour couvrir graduellement toute la terre. Mais il y aura ces événements-là qui vont se produire, et c'est selon le plan de Dieu, pour des raisons que lui connaît. Continuons. Verset 9. « Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. » Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Mais oui, Jérusalem sera sans défense. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Parce que les villes que nous allons bâtir à partir de Jérusalem n'auront pas besoin de murailles. D'accord? Alors, ces peuples-là vont dire, c'est des villes sans murailles, ils sont riches, on veut aller chercher leur butin. On le voit après. Et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Je vais aller voler leurs biens. Porter la main sur des ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Ça se comprend qu'il y aura des grandes richesses à Jérusalem et autour. Parce qu'à ce moment-là, Dieu bénira les peuples qui seront là, le peuple qui sera là et qui mettra ses lois en pratique. Donc, Dieu va multiplier les bénédictions spéciales pour la région. Alors, les peuples lointains qui voient ça vont dire à un moment donné, on va aller chercher ces richesses-là dans leur façon de voir les choses et de faire les choses. Allons maintenant au verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, et même dans l'abondance, comme on vient de voir, tu le sauras, tu vas le voir. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Et vous savez ce que Dieu va accomplir avec ça? La même chose que Dieu a accomplie avec Pharaon. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Quand ils s'en allaient vers la mer Rouge, vous irez voir dans Exode 14, verset 4, qu'est-ce que Dieu dit? « Pharaon et toute son armée feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Il n'y aura plus de doute, voyez-vous? Et c'est le même phénomène qui va se passer. Comme Dieu avait mis dans le cœur de Pharaon d'attaquer la nation d'Israël, il va mettre dans le cœur de Gog et Magog et leurs alliés d'attaquer Jérusalem. Mais pourquoi? Pour manifester sa puissance, son autorité suprême sur toute la création. Verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Regardez le verset 23. Vous pourrez lire les autres versets ensuite au cours de vos études dans les jours qui viennent, mais verset 23, Dieu continue en disant, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, comme il l'a fait avec Pharaon. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Il n'y aura plus aucun doute à ce moment-là. C'est ce qui va se passer. Un certain nombre d'années après le début du millénium. On ne sait pas le nombre d'années, parce qu'on sait qu'il y aurait eu grande destruction avant et tout ça. Il faudra que ces nations-là aient eu le temps de se rebâtir, de redévelopper des armements et ainsi de suite. Alors, il ne précise pas le nombre d'années, mais c'est après un certain nombre de jours, après plusieurs jours même, comme on a vu. Et le même scénario va se répéter, encore une fois, à la fin du millénium, à la fin du premier mille ans du règne du Christ. Quand Satan sera relâché une dernière fois pour une très courte période de temps. Revoyons-le dans Apocalypse 20. On l'a eu tantôt, mais je vais aller plus loin. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Là, on revient à la fin du millénaire, du millénium. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il va refaire la même chose à la fin du millénium. Gog et Magog. Les mêmes, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et là, regardez bien, de toute l'histoire de l'humanité, ce sera la dernière guerre de toutes les guerres. Ce sera la dernière guerre de toutes les guerres. Je vois des beaux sourires, là, des gens qui ont hâte que cette chose-là se réalise. Libération totale de l'humanité. Et cette dernière guerre-là sera encore inspirée par Satan, qui aura été relâché pour un peu de temps. Et de toute l'histoire humaine, ce sera la dernière bataille de rébellion contre le Créateur Tout-Puissant. Et immédiatement après ça, Satan et ses démons seront définitivement mis à part, éloignés, séparés totalement de Dieu et des êtres humains encore vivants durant la période du dernier grand jour. Et Satan et ses démons seront éloignés, mis à part pour toute l'éternité. Ils ne pourront plus jamais intervenir avec aucun être existant. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Quelqu'un peut dire, oui, mais Satan, c'est un être spirituel. Le feu et le soufre, ça ne le dérangera pas énormément. Quand on est physique, oui, mais pas quand on est spirituel. Mais ici, c'est un langage symbolique pour dire qu'il est jeté, éliminé, éloigné et qu'il ne pourra plus déranger. Parce que bien sûr, il ne peut pas être détruit. C'est un être qui ne peut plus mourir maintenant. Alors, regardez l'autre bout de phrase ensuite. Où sont la bête et le faux prophète? Et dans l'original, c'est où avaient été jetés la bête et le faux prophète auparavant. Et la bête et le faux prophète, eux, ont été brûlés lorsqu'ils ont été jetés dans l'étang de feu. OK? Cette petite phrase-là, elle est insérée dans le texte, puis ça dérange un peu. Parce qu'on devrait lire plutôt dans ce sens-ci. Et le diable qui les séduisait, y compris ses démons, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est le sort de Satan et de ses démons qui ne peuvent pas mourir, mais qui seront séparés de Dieu totalement pour l'éternité et qui seront tourmentés au siècle des siècles. C'est leur sort. Et Satan, l'adversaire puis le grand menteur, a fait croire aux êtres humains que ce serait le sort des êtres humains, de certains êtres humains, de vivre éternellement dans la souffrance. C'est leur sort. Il faisait de la projection à ce moment-là, lorsqu'il a mentionné ces choses-là. Le sort définitif de Satan, je vais vous donner un autre passage. Le sort définitif de Satan, il est décrit dans Jude, le verset 13. Je vais vous le lire, je ne m'y rapporterai pas. Jude, verset 13. Des vagues furieuses de la mer. Là, il parle de Satan et de ses démons. Et il dit, ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, tous les anges étaient là. Et c'est marqué dans Job que les étoiles du ciel éclataient en chants d'allégresse. Ils les décrivent comme étant des astres. Et ici, il emploie le même langage en parlant des anges. Et il dit, l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà le sort final de Satan et de ses démons qui ne pourront plus jamais influencer personne. Et c'est alors, après que Satan et ses démons auront été écartés définitivement, qu'aura lieu la résurrection générale décrite dans Apocalypse 20, versets 11 et 12. Apocalypse 20, versets 11 et 12, tout de suite après. C'est là que le dernier grand jour se réalise. C'est une prophétie, le dernier grand jour. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Dieu ramène à la vie physique tous les êtres humains qui ont existé depuis Adam et Ève. Verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ça indique simplement qu'il y aura des changements de topographie sur toute la planète. Et regardez, « Et je vis les morts, les grands et les petits, les bébés, les enfants, ceux qui ont été avortés même, ceux qui sont morts-nés. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Pourquoi est-ce qu'ils se tiennent devant le trône? Parce qu'ils sont ramenés à la vie. Ils sont debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Ces gens-là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous ces gens-là qui seront ramenés à la vie, les milliards que Dieu ressuscitera, se verront enseigner quoi? La même chose que vous et moi. Et la même chose que nous allons enseigner aux survivants de la grande détresse au cours du millénium. Nous allons leur enseigner ce qui est écrit dans les livres de la Bible. Nous allons leur expliquer l'histoire qui est arrivée. Nous allons leur parler d'Exode, de Genèse, Jérémie, Apocalypse. C'est pour ça qu'ils disent ici, des livres furent ouverts, comme des livres sont ouverts pour nous, et que les ministres nous enseignent, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'ils nous donnent l'espoir que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas tout. Des livres furent ouverts pour qu'ils connaissent le plan de Dieu, qu'ils connaissent les lois de Dieu, et qu'ils se mettent à les pratiquer. Et s'ils le font, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un autre livre, regardez après. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. S'ils se mettent à obéir à Dieu, ils vont pouvoir, comme je mentionnais tantôt, changer, aller vers le baptême, recevoir l'imposition des mains, recevoir le Saint-Esprit et voir leur nom écrit dans le livre pour recevoir plus tard la vie éternelle s'ils persévèrent eux aussi jusqu'à la fin. C'est ça. Et après, on voit, et les morts, ces morts-là qui étaient redevenus vivants, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est formidable. Ça veut dire que, comme nous, ils vont devoir démontrer à Dieu qu'ils veulent lui appartenir en changeant de façon de vivre. Et ils seront examinés, évalués sur leur façon de vivre à partir de ce qu'ils vont savoir. On est jugé ou évalué sur ce que nous savons. Mais à ce moment-là, ils sauront, parce qu'ils seront enseignés comme nous sommes aujourd'hui. Alors, tous les êtres humains de l'histoire qui n'ont pas connu le vrai Dieu, et c'est un grand nombre, pratiquement tous, ceux qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont pas signé l'alliance sacrée du baptême dans le sang du Christ, seront ressuscités, ramenés à la vie physique. et ils vont se voir accorder un certain nombre d'années, une période de temps, pour choisir ou non, ils auront le choix, pour choisir ou non d'obéir aux lois de Dieu, de célébrer ses fêtes, comme nous on célèbre aujourd'hui. Ils auront une période de temps pour le faire, pour observer ses lois. Exactement comme nous aujourd'hui, qui sommes sous le jugement de Dieu. Pas sous la condamnation, mais sous le jugement. C'est-à-dire sous l'examen de Dieu qui regarde qu'est-ce que nous faisons avec ce qu'il nous montre de faire. Alors, tous ces gens-là qui seront ramenés à la vie, des milliards d'êtres humains qui ont vécu, ça comprendra, d'après moi, Adam et Ève. Ça répond peut-être à une question qui m'a déjà été posée. Je vais vous dire pourquoi, puis vous allez comprendre. Pourquoi Adam et Ève seront ramenés à la vie et vont réaliser qu'ils ont eu pas mal d'enfants, pas mal plus d'enfants qu'ils pensaient, quand ils vont... parce que là, il va y avoir des milliards qui vont être là. Il faut les convaincre que c'est là tous des descendants de leurs deux, de leur couple. Adam et Ève seront sans doute là, d'après moi, parce qu'ils n'ont pas choisi l'arbre de la vie. Ils n'ont pas choisi l'arbre de la vie éternelle. Donc, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont fait le mauvais choix. S'ils avaient choisi autrement, ça aurait été autrement. Mais ils n'ont pas pris l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de vie, c'est l'arbre de vie éternelle. Alors, Adam et Ève seront là. Il y aura tous ceux qui sont morts dans le déluge. Il y aura aussi tous les méchants qui sont morts dans Tyr, Sidon, Sodome, Gomorre, Ninive. La reine du Midi sera ramenée à la vie. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Une foule immense. Luc chapitre 11. On va lire à partir du verset 29. Jésus parle du signe de Jonas ici. « Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » La génération où il était. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Là, on peut comprendre ce que ça veut dire. La reine du Midi, qui était allée voir Salomon, qui avait entendu parler de sa sagesse, qui était allée le voir, elle n'a pas compris le plan de Dieu, mais elle est venue en contact avec cet homme-là, qui avait grande sagesse de Dieu. Et on voit ici qu'elle se lèvera au jour du jugement, c'est-à-dire qu'elle sera debout, comme on a vu, ramené sur ses pieds, ressuscité, le jour du dernier grand jour, comme aujourd'hui. La reine du Midi se lèvera, donc reviendra à la vie, au jour du jugement, le dernier grand jour, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Christ parlait de lui-même, et cette génération-là ne reconnaît pas que je suis le Fils de Dieu. Alors, il dit, même la reine du Midi va se lever, elle ressuscitera avec les autres, et elle va condamner les autres dans le sens qu'elle va leur dire, écoutez, vous aviez tout pour comprendre, mais vous avez rejeté la compréhension. Et vous pourrez aller voir dans Matthieu 11, verset 24, parlant de la ville de Capernaum, qui avait refusé de reconnaître les miracles du Christ, Jésus déclare, « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, Capernaum. » Donc, au jour du jugement, c'est-à-dire au jour où tous les humains qui ont vécu vont être amenés à la vie pour être examinés après avoir été enseignés, il dit, « Au jour de ce jugement-là, Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que toi, Capernaum, parce que moi-même, le Créateur, je suis ici et je vous enseigne. » Donc, cette génération-là sera traitée plus sévèrement. Maintenant, je vais plus loin. Je vous ai dit tantôt que Quand le dernier grand jour va s'accomplir, les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie et ils auront du temps pour vivre selon les lois de Dieu. Ça ne sera pas instantanément non plus. Et ils vont devoir faire des choix. Vous irez voir dans Ésaïe 65, verset 20, à partir de ce passage-là, on réalise qu'il y aura probablement une centaine d'années qui sera accordée à tous ces êtres ressuscités. Je vous cite ce qui est dit. « Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Donc, il y a encore des gens qui vont rejeter Dieu à ce moment-là et qui seront sous la malédiction. Il y a cet aspect-là aussi. Mais on voit qu'il y a une période d'environ 100 ans qui sera accordée à ces milliards d'êtres humains-là, dont vos parents, vos grands-parents, mon père, ceux qu'on aime, nos amis d'autrefois. Maintenant, je vais plus loin. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué jusqu'à date. Dans le plan de Dieu, il y a 3 époques de jugement. Dans le plan de Dieu, il y a 3 époques de jugement. Par contre, avant d'aller plus loin, je veux définir les choses. Parce que jugement peut vouloir dire plusieurs sens. Et dans la Bible, il y a principalement 2 sortes de jugements qu'on voit. Il y en a d'autres, mais je vais utiliser ces 2 sortes-là pour les fins du sermon d'aujourd'hui. Le premier sens de jugement dans le langage biblique, c'est l'application d'une punition ou d'un châtiment. Par exemple, quand la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu, ou les incorrigibles seront jetés dans l'étang de feu, c'est jugement, punition, ou jugement, châtiment. OK? Écoutez, c'est comme quand on va en cours. Quelqu'un est accusé de quelque chose, il va en cours, il est sous jugement. Il n'est pas encore condamné. Mais si ça va au bout et qu'il est trouvé coupable, là, la partie du jugement, condamnation, s'applique. Là, il est sous la condamnation. Mais jusque-là, il est sous l'examen de la cour. OK? Comme nous sommes aujourd'hui. Alors, le premier sens que je vous donne, c'est l'application d'une punition ou d'un châtiment. Il y a d'autres contextes, par contre, et c'est vrai pour le dernier grand jour dont je vous parle, qui sera un jour de jugement, le jugement du grand trône blanc. C'est le jugement dans le sens d'examen, d'évaluation. Ces gens-là vont faire quoi avec ce qu'ils seront enseignés? Et là, Dieu va examiner, comme il fait avec nous maintenant, qui se met à mettre ses lois en pratique et qui refuse de le faire. Ils seront sous l'examen. C'est jugement dans le sens d'examen, d'évaluation. Même chose qu'un examen scolaire. Quand on passe un examen scolaire, on est sous évaluation, hein, pour voir à quel point on comprend la matière. Alors, ce sera exactement la même chose. Une période d'évaluation, dernier grand jour, période d'évaluation, d'examen, où Dieu va évaluer ce que les humains vont faire quand ils seront appelés et qu'ils recevront le Saint-Esprit. Nous sommes tenus, ça c'est un principe important là, ce que je vous donne, nous sommes tenus responsables de nos actions à partir du moment où nous connaissons les lois de Dieu. On est responsable de nos actions par la suite. OK? Alors, c'est une période d'évaluation où Dieu évalue ce que les humains font quand ils sont appelés, quand ils reçoivent son Saint-Esprit et qu'ils doivent prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. C'est à ce moment-là que Dieu prend une décision concernant ces gens-là. Mais il leur donne du temps, comme il vous donne à vous et à moi du temps, et qu'il nous examine actuellement dans la période de vie qu'il nous donne. Je précise, par contre, qu'il s'agit là de 3 époques séparées, 3 époques de jugement séparées, où des groupes d'êtres humains sont appelés et se voient offrir d'être sauvés et de recevoir la vie éternelle. La première époque de jugement, c'est nous aujourd'hui. La deuxième, ce sera durant le millénium, les êtres humains qui auront survécu à la grande détresse. Et la troisième période de jugement, dans le sens d'évaluation ou d'examen, ça va être tous nos ancêtres qui seront ramenés à la vie le dernier grand jour pour vivre dans cet environnement d'une centaine d'années et avoir le choix d'obéir ou non aux lois de Dieu. Maintenant, je précise quelque chose. Le salut n'a été offert à aucun groupe de personnes dans l'Ancien Testament. Vous ne trouverez pas que le salut a été offert à un groupe de personnes ensemble dans l'Ancien Testament. Toutefois, Dieu a appelé des prophètes individuellement. Et il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire depuis le début, les prophètes de Dieu. Il les a appelés individuellement pour leur donner des responsabilités très spécifiques selon l'époque où ils étaient. Ésaïe, Jérémie, bon, vous les connaissez. Il y avait un travail à faire, ces hommes-là. Mais en même temps, vous allez voir comment Dieu perçoit ces choses-là et où eux se situent par rapport aux trois périodes de jugement que je vous ai données. Première période de jugement, c'est maintenant. Deuxième période de jugement, ce sera pour ceux qui vont être des êtres humains physiques dans le millénium. Et la troisième, pour tous nos ancêtres qui seront ramenés à la vie durant le dernier grand jour. Alors, Dieu a appelé des prophètes individuellement, et ces prophètes forment une partie du fondement de l'Église du Nouveau Testament. OK? Là, je vous amène une autre compréhension où on va plus loin. Ces hommes-là qui ont été appelés individuellement, qui n'ont pas été appelés en groupe, dans le fond, ils ont constitué la base, le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Vous irez voir Éphésiens 2, verset 20. C'est précisé exactement. Ici, Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voyez-vous? Vous avez été, vous, de l'Église de Dieu. Première période d'examen d'un groupe d'appelés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire de tout l'édifice. Voyez-vous, là où se situent les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas été appelés en tant que groupe, mais ils ont été appelés comme partie du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Ce n'était pas une période de jugement pour un groupe dans l'Ancien Testament. Ça commence avec nous. Donc, première époque de jugement, et je précise, première époque d'évaluation d'un groupe d'appelés, celle de l'Église du Dieu vivant, celle de l'Église de Dieu à notre époque, à partir de sa fondation par le Christ. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. On peut y aller. 1 Pierre chapitre 4. C'est très clair encore là. 1 Pierre chapitre 4. Et regardez le verset 17. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Car c'est le moment où le jugement, pas condamnation, là, mais l'évaluation, l'examen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est l'Église du Dieu vivant. OK? Et l'examen commence par nous. Dieu ne juge pas le monde dans ce sens-là maintenant. Dieu n'examine pas le monde. Dieu n'évalue pas le monde. Dieu sait que le monde est aveuglé actuellement. Et ce n'est pas son temps pour comprendre. Dieu a un plan par étapes. Et Dieu n'abandonne personne. Car c'est le moment où l'évaluation va commencer par la maison de Dieu. Dieu évalue comment on vit. Est-ce qu'on travaille fort pour changer? Est-ce qu'on le supplie de nous pardonner? Est-ce qu'on le supplie de nous montrer même les fautes qu'on n'a pas encore vues et de nous donner la force de les éliminer? Il y a des choses qu'on peut éliminer rapidement, d'autres, ça prend plus d'efforts, plus de temps et parfois des larmes, mais c'est ce qu'il faut faire. Si je veux être là, quand les miens seront ramenés à la vie, il faut que moi, je fasse le chemin que j'ai à faire maintenant. C'est ça. Alors, il dit, le jugement, il est sur nous maintenant, sur l'Église de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Ceux qui sont appelés et qui ne prennent pas ça au sérieux après avoir été baptisés, quelle sera leur fin. On sait quelle est la fin de ceux qui vont se détourner volontairement de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir été éclairés. C'est ce que la Bible mentionne. On peut le voir dans Hébreux, chapitre 6, verset 4. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible. Hébreux 6 et le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont connu ce que les livres de la Bible disent, qui ont vu le chemin à suivre, qui ont demandé l'aide de Dieu, qui ont été baptisés, qui ont reçu son Saint-Esprit, il dit, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, le Saint-Esprit, c'est un don qui vient de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, voyez-vous comme c'est clair, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui se sont réjouis de voir son plan et les puissances du siècle à venir, qui savent qu'il y a un monde nouveau qui s'en vient bientôt, qui sera totalement différent de celui où nous vivons et où les gens seront libérés. Alors, il dit, c'est impossible que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme ça et qui sont tombés, qui se sont détournés volontairement, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Il dit, dans certains cas, quand c'est rendu trop loin, ça ne revient plus. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors, voyez-vous pourquoi on doit prendre conscience dans l'Église que nous sommes sous l'examen de Dieu. Pas sous la condamnation. Il nous arrive de tomber encore. Et on demande pardon. Et on recommence. On recommence la lutte. D'ailleurs, on le voit juste avant dans Hébreux 4. Verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans commettre le péché. » Et regardez après, parce que vous et moi, il nous arrive malheureusement encore de tomber. Et quand ça se produit, il faut se dépêcher à aller devant le trône de Dieu, demander pardon et demander son aide. Et comme j'entendais dans un message de M. Appartient cette nuit, quand j'ai écouté un de ses sermons, il disait, quand vous tombez, dépêchez-vous d'aller demander pardon à Dieu et ne recommettez plus la même faute. Ne recommettez plus la même faute. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance. Quand on a l'attitude de repentir, on peut faire ça, on peut le vivre intensément. Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin quoi? D'obtenir miséricorde, d'être pardonné, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et quand on a manqué sur un point particulier, comprenez-vous qu'on a besoin d'être secouru sur ça, pour être capable de ne plus commettre la même faute. Et c'est avec l'aide de Dieu qu'on peut y arriver. Nous sommes sous la première période de jugement dont je vous ai parlé. Maintenant, la deuxième période de jugement ou d'évaluation, c'est le millénium, comme je vous ai dit. La vérité et les lois enseignées à tous les humains qui auront survécu à la grande détresse, à la Troisième Guerre mondiale. Il y a un petit nombre de personnes qui vont être encore des êtres humains physiques. Ils seront, bien sûr, amochés beaucoup. Ils seront découragés. Ils seront dans toutes sortes de situations. La Bible décrit à plusieurs endroits comment ces gens-là seront ramenés vers Jérusalem en marchant. Il y aura des femmes qui vont accoucher en cours de route. Des gens seront aveugles. Des gens seront boiteux. Sortiront des camps de concentration encore pires que ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration allemands. Et nous allons devoir consoler ces gens-là, les amener, les nourrir, les guérir, les consoler, les enseigner. Alors, eux vont entrer à ce moment-là dans la deuxième période d'évaluation, parce que nous allons leur enseigner les lois de Dieu, les fêtes de Dieu, la façon de vivre. Ça sera un plaisir de le faire et de les voir changer. Mais dans leur cas, à ce moment-là, les êtres humains physiques qui auront survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui seront amenés vers Jérusalem, c'est que Dieu va les évaluer, eux, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils vont apprendre graduellement? Et encore là, on ne leur montre pas ça d'un coup sec, là. Ça va prendre du temps. Ça va se faire dans le temps. Et il y a des gens qui auront plus de difficultés que d'autres, comme ça arrive encore aujourd'hui. Mais s'ils veulent s'orienter vers la vie éternelle, il faudra qu'eux aussi, comme nous on doit faire maintenant, doivent faire tous les efforts nécessaires et s'attacher à Dieu pour avoir sa force, pour être capable d'y arriver. Dieu va évaluer qui va vraiment choisir de changer et qui ne le choisira pas. Dieu va faire la part des choses entre le juste et l'injuste à ce moment-là. En tant que roi et sacrificateur, vous savez une chose? C'est que nous allons aussi participer à ce jugement. À l'évaluation, je reviens toujours à ça, ce jugement-là, c'est l'évaluation, c'est l'examen. Alors, nous allons être des rois, des sacrificateurs, des enseignants sous le Christ, qui lui est le grand juge, mais nous allons être des petits juges qui allons enseigner les gens, qui allons les soutenir, les encourager, les corriger, comme les ministres font avec nous actuellement, et comme les ministres au-dessus de moi font avec moi aussi, parce que j'ai aussi besoin d'apprendre des choses. C'est le même phénomène pour tout le monde. C'est le même scénario. Mais nous allons donc enseigner ces gens-là. Nous allons les corriger avec affection. Nous allons les soutenir et nous allons les aider à faire les bons choix. Ce sera un travail de jugement, d'examen, d'encouragement et de direction. On va les diriger de la bonne façon. Apocalypse 20, verset 4, dit ceci, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de quoi? De juger, c'est-à-dire d'évaluer les êtres humains qui seront à ce moment-là à l'entraînement, comme vous et moi. » Apocalypse 20, verset 4. Et au verset 6, ça dit, « Ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans. » Bon, j'arrive maintenant à la troisième période de jugement, qui est la fête que nous célébrons et qui va se réaliser après le premier 1000 ans du règne du Christ. Le jugement du grand trône blanc, résurrection générale et début du 100 ans qui sera accordé aux êtres qui seront encore physiques, ramenés à la vie à ce moment-là. Pour eux, là, ce sera leur toute première occasion de salut. Ce sera leur toute première occasion de connaître le vrai Dieu et de vivre ou non selon ses lois. Ils auront le choix, comme vous et moi, et comme ceux du millénium avant. Ces gens-là ne sont pas condamnés. Dieu les a pas condamnés. Ils seront condamnés s'ils refusent Dieu une fois qu'ils sauront. C'est ça. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Ils n'ont jamais été jugés avant. Ils n'ont jamais été évalués avant, nous le sommes. Ils n'ont jamais été évalués avant. Ils le seront à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont jamais été condamnés non plus. Ils seront condamnés en bout de ligne s'ils rejettent Dieu. Vous savez, les églises du monde ont totalement tort quand elles enseignent que si une personne ne se convertit pas aujourd'hui, qu'elle est perdue. C'est faux. Ça fait partie des mensonges de l'adversaire qui a séduit toute l'humanité par toutes sortes de religions inimaginables. Les églises du monde enseignent à tort que si une personne ne se convertit pas à Dieu aujourd'hui, qu'elle est perdue à jamais. Ce n'est pas le cas. Ou que quand quelqu'un décède, s'il a été gentil un peu, il va aller au ciel. Et s'il n'a pas été assez gentil, il va aller dans un feu éternel où il va souffrir éternellement. Dieu est un Dieu bon. Ceux qui seront incorrigibles, Dieu va les détruire totalement, tout simplement. Il va leur dire, vous ne voulez pas vivre de façon heureuse et rendre les autres heureux. Je ne permettrai pas que vous soyez malheureux plus longtemps et que vous rendiez d'autres malheureux. Alors, je vais vous retirer l'existence définitivement. C'est comme si vous n'aviez jamais existé. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu juste. Il donne à chacun des êtres humains la chance de choisir. Il lui donne une période de temps pour le faire. Et chacun en son temps, comme on voit, trois périodes de jugement. La superbe vérité, c'est que Dieu a fixé trois époques différentes au cours desquelles il offre à des groupes différents de connaître la vérité, d'être appelés à en vivre, de pouvoir se repentir, de pouvoir être baptisés, recevoir le Saint-Esprit et marcher vers la vie éternelle, de voir leur nom inscrit dans le livre de vie. À la fin de la période du jugement du grand trône blanc qu'on célèbre aujourd'hui, tous les humains de l'histoire auront eu la même possibilité de choix, sans exception, mais à leur époque, qui a été fixée par Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour qui fait rêver. C'est un jour qui fait rêver beaucoup. Tous nos êtres chers qui n'ont pas été appelés, et c'est la plupart de nos êtres chers, vont revivre, vont revenir en vie, vont obtenir un corps physique. Et on pourra vivre des retrouvailles inimaginables avec chacun et chacune de nos êtres chers. C'est extraordinaire ce qui nous attend. Et c'est pour ça, on en parlait ce matin, que ça nous rend tellement joyeux quand on célèbre cette fête-là, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Et on se rappelle les nôtres, on a hâte de les revoir. Et ils vont avoir la chance de connaître la vérité et de changer pour le mieux. Vous savez, Dieu n'a jamais changé d'idée, Dieu n'a jamais changé de plan. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son plan était fait depuis longtemps. Et regardez Romains 4, s'il vous plaît. Un dernier verset. Romains, chapitre 4. Superbe verset. Ça m'a pris un certain temps à comprendre ce verset-là. Mais il y a quelques années, je ne sais pas si à l'occasion d'un sermon ou d'un article, mais j'ai compris ce que ce verset-là voulait dire. Et ça nous montre que pour Dieu, c'est comme si son plan était accompli. Lui, il est certain qu'il va l'accomplir, il est tout-puissant. Il fait arriver les choses qu'il veut voir arriver en leur temps, selon son plan, tout en laissant à chacun des appelés, selon leur époque, le choix personnel. Il est puissant, c'est un Dieu énormément puissant, beaucoup plus qu'on peut jamais imaginer. Et j'aime à dire parfois que on n'aura pas assez de toute l'éternité pour apprendre à découvrir qui est réellement le grand Dieu vivant que nous avons le privilège de servir. Romains 4 et le verset 17. Regardez ce que Paul dit ici. Il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il parle d'Abraham. « Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. » Et maintenant, il précise qu'est-ce que Dieu a en tête et ça résume son plan. Regardez bien. « Dieu qui donne la vie aux morts. » Dieu qui donne la vie aux morts. Oui, parce que Dieu veut que tous se voient offrir la vie éternelle et que ceux qui sont morts reviennent à la vie, qu'ils se voient offrir la vie éternelle et qu'un jour, toute sa famille soit composée seulement d'êtres immortels, spirituels, devenus membres de la famille royale régnante. Alors, il dit, Dieu qui donne la vie aux morts, ce qui va se produire au moment du retour de Christ, quand tous les serviteurs de Dieu dans l'histoire sont ramenés à la vie, ceux qui sont morts. Et nous, si nous sommes encore vivants, nous serons transformés pour être avec eux. Première résurrection. Ensuite, deuxième résurrection au moment du début du dernier grand jour. Il dit qui donne la vie aux morts. Il a ça en tête et il va l'accomplir. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui n'existent pas encore comme si c'était fait. Mais lui peut le faire parce qu'il a toute la puissance. Et rappelez-vous que Dieu n'est pas dans le temps ni dans l'espace. Il a créé toutes choses, y compris le temps et l'espace. Il est en dehors de ça. Alors, il peut dire ceci. Il peut dire, j'appelle les choses qui n'existent pas encore comme si elles existaient. Et nous, on peut rêver des choses qui n'existent pas encore, de la résurrection de tous nos êtres chers, comme si c'était fait, comme Dieu voit les choses, parce que ça sera fait. Comprenez-vous pourquoi j'ai appelé mon sermon aujourd'hui « Un jour qui fait rêver »?